Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. C'est sûrement le dernier week-end pour en profiter. En automne, quand la terre est encore un peu gorgée de pluie, mais chauffée par les derniers rayons du soleil, avec l'odeur d'humus qui se dégage, la forêt vaut, pour moi, tous les anxiolytiques du monde. Elle apaise, elle galvanise, et je ne parle pas de ses feuilles jaunes, rouges, orangées et de leur bruit quand elles craquent sous nos pas. Aujourd'hui, c'est vendredi, et c'est en forêt qu'on part se balader avec toute la bande de Grand Bien vous fasse. Bonjour, Maya Mazorette.
Salut Thomas.
La forêt, vous, ça vous donne envie de grimper aux arbres?
Absolument. Je vais nous emmener en balade en forêt, mais dans les forêts du passé, avec nos ancêtres préhistoriques et ce qu'ils faisaient dans les arbres.
Ben on a hâte de savoir, ce sera tout à l'heure, un peu avant 11h. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Thomas.
Alors, quel est votre ami du vendredi? Qui est votre ami du vendredi d'ailleurs?
Absolument. Vous avez commencé cette émission avec des phrases très sensuelles, je trouve, sur la forêt. Moi, je vais vous parler aussi d'une femme sensuelle, mais d'une femme qui a dû traverser des forêts pour se battre. Elle s'appelle Carole.
Des forêts inextricables. Et bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Thomas.
Votre forêt à vous est littéraire.
Oui, on va essayer de partir dans la jungle des prix littéraires, hein, puisque c'est la saison, en se demandant hein, que vaut le prix Goncourt.
Eh bien, on attend vos commentaires, vos réactions, vos témoignages aussi au 01 45 24 7000. Vous pouvez également écrire et même laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Dites-nous ce que la forêt vous apporte. Merci d'être avec nous. Grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter. Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Et Sandrine Mercier est là également avec son biclou, parce que la forêt à vélo, c'est bien aussi. Bonjour Sandrine.
C'est vrai. Enfin, je suis venue à vélo sous les arbres, sous les platanes de Paris, non sous les marronniers, je devrais dire. Il y a plus vraiment de feuilles maintenant.
Ouais. Oui, c'est pas toujours facile de les reconnaître, les arbres. Hein, on sait pas. Il y a 138 espèces en France. On y reviendra parce qu'on sera aussi tout à l'heure au téléphone avec une ingénieure de l'ONF. Et bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Thomas Chauvineau, ça va?
Ça va et vous?
Ouais, très bien.
La forêt, c'est super, on trouve des champignons.
Ah, on trouve des champignons, du coup, il faut qu'on soit sûr, hein, des champignons qu'on trouve évidemment. Si on n'est pas sûr, il vaut mieux les amener à vérifier. Et puis avec ces champignons, on peut faire, quand on va dans les sous-bois, après on peut revenir et faire plein de recettes, dont une aumônière de champignons avec une duxelle de champignons.
La recette de Grégory Cohen, ce sera d'ici une vingtaine de minutes. Et notre invité pour arpenter ce matin les chemins forestiers, c'est vous Sylvain Bazin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Auteur de ce guide, entre autres, hein, Les plus beaux endroits pour marcher aux éditions Grune, et puis La France des GR aux éditions Glénat. Alors vous avez crapahuté dans le monde entier, le désert de l'Atlas, mais aussi Manhattan, la montagne, donc marché dans pas mal d'endroits à travers le monde, à travers des paysages tous variés. Qu'est-ce que la forêt apporte aux marcheurs que les autres endroits n'apportent pas?
Oh, à l'image d'autres, quand même, d'autres environnements naturels, je pense que la forêt apporte une forme de sérénité, de contact aussi peut-être encore plus proche avec la nature, hein. Quand on marche en forêt, on marche avec la proximité des arbres, des troncs, des feuillages, de l'architecture végétale. Donc, on se sent vraiment plongé dans la nature, dans une nature qui est accueillante aussi. C'est pas un milieu vraiment hostile. Il y a de la vie dans la forêt. Donc je pense qu'on ressent pleinement à la fois la force de la nature et puis aussi une certaine proximité. On est un peu comme à la maison dans la forêt.
Guillemette évoquait la sensualité, mais c'est vrai qu'il y a de ça dans la forêt. Il y a évidemment les odeurs d'humus qu'on a évoquées, la couleur des feuilles, mais aussi le toucher, hein, toucher le tronc d'arbre, toucher la feuille qui craque, ramasser un peu la terre, faire des patouilles avec.
Bien sûr, une balade en forêt, c'est aussi l'éveil de tous les sens, hein, à la fois l'ouïe, l'odorat, avec effectivement les odeurs d'humus, surtout en ce moment à l'automne, la vue bien entendu, et c'est vraiment une communion profonde avec la nature, avec les cinq sens. Alors peut-être aussi que c'est un petit peu notre ressenti, on va dire, contemporain. Moi, je me souviens aussi de d'autres sensibilités sur la forêt, hein, quand on prend la littérature plus ancienne. Hein, je pense au Roi des Aulnes de Goethe, hein, où là, la forêt était quand même un monde un petit peu, alors rempli de mystères, ce qu'elle est toujours, mais quand même un peu plus inquiétante qu'on ne la ressent maintenant.
Et puis, il y a aussi le son. On ne l'a pas évoqué, mais on croit qu'une forêt, en fait, c'est silencieux, mais c'est éminemment bruyant. Il y a plein de petits endroits, plein de des petits oiseaux, des petits insectes. Il y a plein de sons dans la forêt.
Ben oui, tout à fait. Alors effectivement, au printemps et même encore maintenant, c'est aussi le lieu magique pour entendre le chant des oiseaux, hein, mais aussi évidemment le bruissement des feuillages. Hein. Enfin, si j'en reviens au poème de Goethe, le roi des Aulnes, hein, « Was mir Erlen König leise verspricht ».
Ah oui. Hein,
c'est ça, il y a
voilà, il y a du niveau.
Sie sprechen Deutsch.
Ja, ja, ein bisschen, ja. In Duren Blättern, The Sölder Wind, le vent dans les feuillages durcis. C'est aussi une évocation des bruits de la forêt et peut-être de toutes les questions qu'on peut se poser quand on s'y promène, notamment de nuit, c'est encore plus fort.
Alors, puisque vous parlez poésie, je vous propose qu'on essaie de se livrer justement à un moment poétique, parce qu'il y a ce son très caractéristique de ces feuilles qui craquent quand on marche dessus. On va faire ce petit jeu, si vous le voulez bien, Sylvain Bazin. On va écouter ce son de feuilles qui craquent. Vous allez fermer les yeux et nous dire ce que vous voyez.
Alors moi, je vois une chaussure qui, l'automne, voilà, foule le sol d'une forêt avec des feuilles qui sont déjà un petit peu durcies là. On est peut-être encore un petit peu plus loin dans la saison qu'on ne l'est actuellement où les feuilles viennent de tomber.
Eh mais vous avez l'oreille parce que c'est une forêt polonaise où justement il fait un peu plus froid et les feuilles sont en effet un peu plus dures. Vous savez que puisque nous sommes en Pologne, faisons le tour du monde qu'au Japon. Les Japonais ont inventé ce qu'ils appellent le Shirin-yoku, donc c'est littéralement le bain de forêt. C'est-à-dire qu'on se baigne dans la forêt.
Ah oui, ça me paraît être une bonne idée hein, de se plonger dans les feuilles mortes. Pour effectivement, je pense aussi ressentir un peu cette saison, l'automne, toute la... Bon, on a de la chance aussi de vivre sous des latitudes où on a cette saison et je pense que c'est vraiment voilà, une transition entre la vie de l'été et du printemps et puis la pause de l'hiver qu'on va accueillir bientôt.
Guillemette et Maya, vous voulez intervenir?
Je peux, Maya, prendre?
Vas-y.
Toute cette politesse.
Est-ce que aussi, enfin, ce bain de forêt, mais on entendait tout à l'heure, donc le crissement de ses feuilles, mais la forêt, c'est aussi un bain de silence, c'est-à-dire de silence humain, parce que tous ces petits bruits et cette atmosphère comme ça enveloppante, on ne la ressent que si on se tait. Est-ce que ça, c'est important aussi dans la forêt? Est-ce que c'est aussi le paysage qui amène au silence?
Ah oui, effectivement, c'est un peu la cathédrale des arbres, hein, donc quand on s'y promène, on peut effectivement avoir cette envie de se taire et de justement d'être à la fois dans la contemplation visuelle et dans la contemplation aussi sonore, effectivement.
Maya.
Les bains de forêt, ça n'existe pas seulement au Japon, ça existe aussi en France, les milieux naturopathes et tout.
On appelle ça la sylvothérapie, et d'ailleurs voilà. Ça s'est pas mal développé pendant le confinement, où on proposait d'aller faire des câlins aux arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les uns les autres, mais c'est hyper agréable.
Ouais,
ça fait du bien de poser sa joue contre l'écorce de l'arbre.
À un moment, il y avait même des mouvements sexuels, où il s'agissait de faire d'autres câlins aux arbres.
Maya, il est 10h du matin, nous n'irons pas plus loin.
Oh là là.
Et puisqu'on parle d'amour, tiens, justement, et il y a aussi l'inverse, vous avez commencé à l'évoquer avec Hercule Niche, avec le roi des Aulnes, mais en même temps, il y a cette ambivalence avec cette forêt donc, qui est agréable, qu'on peut en effet câliner, voire plus s'y affiniter. Mais c'est aussi le lieu de la perdition, c'est le lieu où on va tuer, où on doit tuer Blanche-Neige, c'est le lieu qui fait peur, c'est le lieu où on rencontre la bête du Gévaudan. Il y a cette ambivalence-là où on retrouve finalement la violence de la nature.
Ben oui, bien sûr, hein, la forêt reste aussi un milieu naturel, un milieu sauvage, alors... Plus ou moins, hein. C'est vrai que bon, quand on se promène sur le chemin Jean Racine, par exemple, dans la vallée de Chevreuse, ça, on est dans une forêt assez domestiquée, mais on peut aussi trouver des forêts beaucoup plus sauvages. Hein. Je pense que Sandrine va nous parler du Canada bien un peu plus tard, où là, on est vraiment dans quelque chose. Où on se sent un petit peu moins chez nous et un petit peu moins tranquille. Donc oui, forcément, il y a toute cette force des éléments. Alors bon, si on évoque alors la forêt tropicale, là on est dans quelque chose. De beaucoup plus hostile, même si la vie y grouille. Hein. Donc ça reste aussi un milieu hospitalier pour les animaux, pour l'homme peut-être un peu plus difficilement. Mais ouais, il y a tout cet aspect aussi peut-être inquiétant hein, qu'on évoquait.
On a toujours un peu peur de se perdre en forêt.
Ah oui, oui, bah c'est aussi les contes, hein, les mythes du petit poussé. C'est se perdre en forêt, ça restait un milieu avec de l'inconnu, et on a toujours quand même peut-être en nous, notamment quand on prend des sentiers qui s'enfoncent vraiment dans les bois, peut-être ce petit sentiment d'insécurité et de contes de fées qui reste dans nos inconscients.
Alors de la noirceur, de l'inquiétude que peut procurer la forêt au polar, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement avec vous, Guillemette Audicino, puisqu'il y a du Patricia Highsmith dans votre ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Et c'est l'initiale de votre ami
oui,
du vendredi
c'est...
aujourd'hui, Guillemette Audicino.
C'est comme... comme cher aussi, cher Thomas. Chères auditrices et auditeurs, mais je devrais dire peut-être chères lectrices et lecteurs, ou même chères amoureuses et amoureux. Je voudrais vous présenter donc une amie de fiction dont il est impossible d'oublier le parfum une fois que vous l'avez croisée. Ce parfum entêtant des libertés acquises. Carole, qui donne son titre au roman de Patricia Highsmith, ce roman jalon, paru en 1952 sous un autre titre d'abord. Le prix du sel. Quand la romancière l'écrit en une semaine, comme en transe amoureuse, elle se doute qu'il n'est pas prudent de raconter une histoire d'amour entre deux femmes, dans l'Amérique de la guerre froide, où la chasse aux sorcières ne concerne pas que les communistes, mais aussi les homosexuels. Il y a la peur rouge, mais aussi la peur violette, qui désigne la persécution des homosexuels aux États-Unis pendant les années 50. Alors elle signe donc son livre d'un pseudonyme, Claire Morgan, et le confie à une autre maison d'édition que celle où elle vient tout juste de faire paraître son roman à suspense, L'inconnu du Nord Express, qui vient d'être adapté au cinéma par Alfred Hitchcock. Alors c'est drôle, parce que mon amie Carole pourrait être une héroïne d'Hitchcock, physiquement.
C'est vrai.
Quand la jeune Thérèse, vendeuse au rayon jouet d'un grand magasin new-yorkais, voit pour la première fois Carole, cette cliente chic et aisée, qui vient lui acheter une poupée pour sa fille. Elle la décrit ainsi, captivée au premier regard. Elle était grande et blonde, longue silhouette gracieuse dans un ample manteau de fourrure qu'elle tenait entrouvert, la main posée sur la hanche. Ses yeux étaient gris, décolorés et pourtant lumineux comme le feu. Mais dès que je la rencontre en même temps, je sais que seule son apparence est hitchcockienne, car Carole... C'est le feu sous la glace de l'Amérique puritaine, où la femme gelée contre son gré, dans un mariage précoce de filles de la bonne société. Si vous saviez comme Carole est ravissante. Mais pas dans le sens mièvre, pas dans cette fonction décorative pour laquelle son mari l'a épousée, l'a mise dans sa poche, dit-elle, pour ensuite l'y oublier. D'ailleurs, elle veut divorcer, lassée de si peu d'amour. Non, si Carole est ravissante, c'est qu'elle provoque le ravissement de Thérèse. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler. La subversion se passe de mots. Elle n'en veut même pas à la bonne société qui ne la comprend pas. Et avec mélancolie, elle dit « Ils sont conformistes. J'imagine qu'ils me demandent de n'être que du vide à remplir à leur guise. » Mais tout de même... Quand les hommes veulent mettre en place des clauses de moralité et vous enlever votre enfant sous prétexte de mœurs condamnables, autant partir en voiture, le temps d'une parenthèse idyllique, avant que le ciel puritain vous tombe sur la tête. Alors en une phrase qui a l'air anodine, mais qui demande tous les courages, elle propose à Thérèse d'être sa ravisseuse.
Quand on croit qu'on a touché le fond, on s'aperçoit qu'on n'a plus de cigarettes.
Je vais partir quelque temps.
Quand ?
Où ? Là où ma voiture voudra bien me conduire. Vers l'ouest. Bientôt. Et je me suis dit que tu aimerais peut-être venir avec moi.
Carole, ma courageuse amie, toujours nimbée de mystère, dans ce livre toujours aussi moderne et brûlant de Patricia Highsmith. Elle a aujourd'hui et pour toujours pris les traits altiers de Cate Blanchett grâce à l'adaptation de Todd Haynes, l'un des plus beaux gestes de cinéma de ces dernières années. Mais le roman, le seul de Patricia Highsmith où personne ne meurt, a ses bonus. Un avant-propos et une postface magnifique, écrit 30 ans plus tard par l'autrice, où elle explique pourquoi, à sa manière, Carole finit bien. Patricia écrit « Le roman homosexuel, alors, se devait d'avoir une fin tragique. Les femmes et les hommes homosexuels des romans américains devaient payer leur déviation en s'ouvrant les veines, en se noyant dans une piscine ou en se convertissant à l'hétérosexualité, tels étaient les termes employés, ou encore en sombrant seul, malheureux et proscrit dans une dépression comparable à l'enfer. » Alors oui, mon amie Carole a souffert à bas bruit et elle continuera sans doute, mais son parfum reste inoubliable. Celui-ci capiteux d'une femme qui refuse les entraves.
Merci, Bette Audicino, pour ce moment de poésie.
C'est trop bien.
Mais si, c'est génial.
On y était. Patricia Highsmith, dont on fête cette année le centenaire de sa naissance, le centenaire de naissance, qui avait fui d'ailleurs les États-Unis pour l'Europe, pour ces
on
questions
se demande.
D'homosexualité dont vous parlez. Et c'est en Suisse qu'elle meurt en 1995, où elle avait fait construire une maison dans le Tessin, en face de la montagne et de sa forêt. Les cornichons de Nino Ferrer, c'est Valentine Chedebois qui s'occupe de toute la programmation musicale de Grand Bien Vous Fasse. L'émission est réalisée par Lauriane Toulmont, avec à la technique Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet. Alexia Rivière, Stéphanie Valois, Camille Pou, Jalaguier et Victorien Thomas m'ont aidé à la préparer, à les préparer toute cette semaine. Merci beaucoup infiniment.
France Inter.
Monsieur Pessachan, où il file dormir dans la forêt hein.
Grand Bien Vous Fasse.
Ah non, pitié, pas l'écurie, non. Je préfère dormir dans la forêt.
Thomas Chauvineau.
Et oui, on se promène aujourd'hui dans la forêt avec toute la bande de Grand Bien Vous Fasse, Grégory Cohen, Maya Mazorette, Guimet Odissino, Sandrine Mercier, Thibaut de Saint-Maurice et Sylvain Bazin, qui est l'auteur de plusieurs guides, qui nous fait l'amitié de venir nous raconter sa forêt. Et puis vos messages qui nous arrivent sur franceinter.fr, notamment celui de Virginie qui nous dit « Bonjour, la forêt m'apaise et s'ancre en moi, mais vous devez préciser que 75% des forêts sont privées », nous dit Virginie. Alors j'avoue que j'ai pas ce chiffre en tête. Les personnes qui ramassent des champignons et autres sont passibles de sanctions. Cet autre message de Lucie qui nous dit « En forêt mayonnaise, j'adore faire des foutignons. Je vais courir, je crois que je me prends un peu pour une gazelle, je saute par-dessus les branches tombées par terre et j'en profite pour repérer s'il y a des champignons intéressants. Et s'il y en a, je reviens dès que je peux avec mon panier. » Et puis Violette qui nous dit « Je vous écris de dessous les arbres de Chaumont et du Festival des Jardins. Les forêts dorées, mordorées m'ont accompagné dans ma traversée par les petites routes du Jura jusqu'ici. C'était magique. » Sylvain Bazin, donc je le disais, vous êtes journaliste, randonneur, grand randonneur. Combien de kilomètres vous avez fait pour une seule et même randonnée, même si elle a duré plusieurs jours?
Écoutez, ça dépend beaucoup des
le plus gros
des parcours. Ah, la plus longue, c'était de Canterbury à Rome sur la Via Francigena, donc sur le chemin, l'ancien chemin de pèlerinage qui menait à Rome. Donc ça fait 2200 km et j'avais mis à l'époque 46 jours. Je faisais des bonnes journées de 55 km par jour. Et c'est voilà,
ça c'était force le respect. Il y a Thibaut de Saint-Maurice qui
est en train de calculer.
Alors, mais voilà, c'était un parcours très très intéressant, et puis où on se rend compte aussi à la fois de l'unité de la nature, de l'architecture de l'Europe, et puis de son évolution. Je me souviens m'être planté devant une grosse maison en pierre près du Jura, et puis je me dis tiens, mais il y a deux semaines je marchais dans les corons entre les petites maisons de briques, et voilà, c'est un passage comme ça, et en marchant on s'en rend compte, et en même temps c'est très doux, c'est toutes ces variations naturelles architecturales. Donc c'est vraiment un voyage très intéressant, et en même temps aussi, j'avais le sentiment que l'Europe ne faisait qu'un. Partout, j'étais accueilli comme un ami, voire comme un compatriote.
Et le fait d'être à pied, peut-être ça change aussi l'accueil et le regard. Hein.
Tout à fait. C'est vrai que quand on se déplace à pied, il y a pas d'hostilité, il y a de la curiosité. On se dit mais tu viens de en Italie, quand on me dit de Canterbury à Rome, voilà, ça les étonnait aussi. Donc c'est vrai que ça attire forcément de la bienveillance.
Alors il y a un chemin sur lequel vous vouliez nous emmener particulièrement, c'est celui d'une randonnée justement dans les Vosges.
Oui, parce que les Vosges, alors c'est quand même un massif très 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 particulier pour la randonnée en France. C'est le massif qui a été balisé le plus anciennement par le club vosgien. Donc la traversée des Vosges, elle a été balisée entièrement dès 1880. Donc c'est vraiment un chemin historique, un chemin très ancien. Et puisqu'on parle de forêt, c'est vrai que les Vosges, c'est quand même un des endroits de France où la forêt est la plus belle, à la fois pour les conifères, puisqu'on a cette image de la forêt vosgienne de sapins, de pins, d'épicéas, mais aussi pour les feuillus. Et puis c'est vrai aussi que c'est un massif où on peut aussi randonner en hiver, parce que c'est vrai que c'est peut-être l'hiver que la forêt de conifères prend un peu sa revanche. Moi, j'ai tendance à préférer les forêts de feuillus. J'ai grandi à Rambouillet, mais l'hiver, quand on la découvre en raquette, la forêt de conifères est aussi également magique. Alors là, pour le coup, on évoquait le silence tout à l'heure, et c'est vrai que c'est aussi des moments magiques, parce que quand on marche, il y a juste le bruissement des pas, et puis toute cette blancheur ouatée et silencieuse, on est vraiment plongé dans une atmosphère assez envoûtante.
Alors il y a 17 millions d'hectares de forêt, 24 millions si on prend en compte l'outre-mer. La France est le quatrième pays le plus boisé d'Europe, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Et nous sommes justement au téléphone avec Mathilde Macias, bonjour.
Bonjour Thomas Chevignot, bonjour aux auditeurs et auditrices de France Inter.
Merci d'être en direct avec nous. Alors vous êtes ingénieur forestier à l'ONF, et moi je trouve que c'est un métier assez fascinant. Qu'est-ce que c'est qu'ingénieur forestier? Qu'est-ce qu'on fait quand on bosse à l'ONF?
Alors, c'est effectivement un métier fascinant et un métier passionnant. Notre métier à l'ONF, c'est de préserver la forêt et d'accompagner son évolution pour la transmettre en bon état aux générations futures et pour lui permettre de répondre à l'ensemble des attentes de la société, qu'il s'agisse de préserver la biodiversité, qu'il s'agisse de produire ce matériau écologiquement vertueux qu'est le bois, qu'il s'agisse d'accueillir du public, c'est le thème aujourd'hui, qu'il s'agisse de nous protéger contre les risques naturels, de contribuer à la lutte contre le changement climatique en stockant du carbone, ou encore de protéger l'air, l'eau, le sol. Et donc l'ONF, c'est des femmes et des hommes passionnés au service des territoires, avec des compétences extrêmement diversifiées et extrêmement complémentaires au service de cet objectif.
Mais ça veut dire que vous êtes souvent en train de vous promener en forêt. C'est ça votre boulot?
Il y a toutes sortes de métiers à l'ONF, hein, puisque donc on a du personnel de terrain, hein, qui est quotidiennement sur le terrain pour accompagner la forêt, pour la suivre, du personnel ouvrier qui réalise les travaux, des personnels naturalistes, hein, qui réalisent des observations, des chercheurs, mais aussi des personnels plus de bureau, sur des fonctions administratives, sur des fonctions commerciales ou sur des fonctions d'encadrement.
J'ai lu qu'il y avait 138 essences d'arbres en France. Alors, je ne sais pas si mon chiffre est exact. Bon, enfin, disons 140, quoi, ce qui est quand même déjà pas mal. Est-ce que vous les reconnaissez toutes?
Alors, moi, personnellement, non. Mais nos personnels de terrain, bien sûr, les reconnaissent. Donc, je vous confirme qu'il y a 138 essences d'arbres en métropole. Mais il y en a environ 2000 en Outre-mer, donc dans des forêts qui sont vraiment extrêmement diversifiées. Et ces 138 espèces se répartissent grosso modo en 60% de feuillus et 40% de résineux.
Alors pour les cancres comme moi qui sont incapables de faire la différence entre, disons, un marronnier l'hiver et un châtaignier, par exemple, hein, il y a une super appli que l'ONF a mise en place qui s'appelle la clé des forêts, et il suffit de prendre en photo l'arbre, sa feuille, et on vous donne le nom de l'arbre.
Alors oui, c'est effectivement une application très intéressante qui en plus a une vertu vraiment pédagogique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir le résultat immédiatement et de ne rien apprendre, on vous propose de procéder vous-même par enquête en renseignant les différentes caractéristiques, et puis par élimination, vous arrivez à déterminer vous-même l'essence que vous avez en présence.
Et ça marche pour les...
Ça fait partie des nombreuses applications que l'ONF développe pour accompagner vos promenades en forêt.
La clé des forêts, ça s'appelle. Et ça marche aussi pour les empreintes au sol, par exemple. Ou pour les rapaces qu'on peut voir.
Oui, tout à fait.
Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous aujourd'hui, Mathilde Macias, pour nous raconter un peu votre travail d'ingénieur des forêts à l'ONF. Merci, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir. Alors la forêt, c'est évidemment la France, comme on vient de le dire, mais c'est aussi le Canada.
Depuis les conifères géants de la Colombie-Britannique jusqu'aux épinettes et aux peupliers des provinces de l'Est, la forêt recouvre presque la moitié du Canada. La couronne, c'est-à-dire le peuple du Canada, est propriétaire de la majeure partie de cette forêt, qui procure une richesse industrielle supérieure à celle de toutes les mines du pays ou encore de toutes nos récoltes de grains.
Alors ça, c'était évidemment avant les sables bitumineux de l'Alberta, mais enfin quand même, c'est un vieux son fourni par l'Office national des forêts québécoises. Et justement, le Canada, Sandrine Mercier, c'est l'endroit où vous voulez nous emmener aujourd'hui.
Ouais, et puis avant, je vais vous donner juste un petit truc pour reconnaître des arbres, parce que l'appli, moi je l'ai essayé, on se tirait les cheveux, enfin impossible de retrouver effectivement en fonction de la feuille qu'on avait sous les yeux, savoir quel arbre c'était. Et la copine avec qui j'étais m'a dit... Pour déterminer la différence entre le charme et l'orme, ça c'est un truc pour Maya, hein, je vous explique. Le charme de l'orme, c'est d'être à poil. Donc c'est un petite astuce rigolote pour savoir que...
Le charme de l'orme, c'est d'être à poil.
Et ben, quand vous regardez la feuille, tu connais ça Sylvain?
Oui, non, j'ai déjà entendu.
Et ben, le charme de l'orme, donc quand vous voyez la feuille, si elle est un peu poilue, et bien c'est de l'orme et ce n'est pas un charme.
Est-ce que ça marche sur les hommes? Le charme de l'orme,
oui, c'est d'être à poil. J'étais sûre que ça allait t'inspirer. Moi, alors...
Allez, le Canada.
Le Canada, oui, c'est vraiment le territoire de la forêt, puisque 35% du territoire est de la forêt à perte de vue. Et là, je vous emmène dans les rocheuses canadiennes, surtout, parce que quand on sort des forêts, eh bien, on peut avoir de sacrées surprises, on peut tomber sur des lacs bleus. Est-ce que vous avez entendu parler des lacs bleus? Alors c'est pas, on pourrait penser que Photoshop est passé par là pour booster le bleu de la couleur de ces lacs, mais pas du tout. C'est un turquoise, un bleu laiteux turquoise incroyable, carrément irréel. Mais c'est vraiment la nature, c'est le résultat de l'eau de fonte des glaciers en fait qui entraîne du limon, donc ces formations sédimentaires, et ça donne cette couleur complètement incroyable aux lacs de juin à septembre. Alors pour voir ces fameux lacs bleus, il faut aller entre Jasper et Banff, c'est à peu près sur 200 km. Il y a des ribambelles de lacs, comme le lac Louise, le lac Moraine. Ça, c'est vraiment le plus petit, le plus intime, un des plus beaux, à mon avis. Sinon, il y a le lac aussi Peto ou le lac Maligne. Ça, c'est les plus connus. Alors, il y a du monde sur le parking, parce qu'on veut prendre des photos de ces lacs absolument incroyables. C'est très Instagrammable. Mais il faut poser sa voiture sur le parking, et là on enfile ses chaussures et on peut partir justement dans les forêts, et par moments il y a des trouées qui nous permettent d'observer ces lacs, et il y a vraiment une magie bleutée, et là il n'y a plus personne. Voilà. Il y a beaucoup d'infos sur destinationcanada.com, en ce moment c'est ouvert, hein, mais il faut deux vaccins, deux doses, pour pouvoir aller au Canada.
Il faut deux doses aussi en France, et parce que vous vouliez aussi nous emmener en Bourgogne.
Ah oui, alors là, c'est une dans la forêt des Queules. Alors, j'ai complètement découvert cette forêt. Elle a un nom déjà qui donne envie d'y aller. On va sur le mont Beuvray, on est dans le Morvan. Et c'est une forêt peuplée d'arbres complètement fantomatiques. Ce sont des arbres complètement tordus, moussus. Là aussi, il y a un côté assez, assez irréel. Et donc, on appelle des queules. Ces arbres s'appellent des queules. Et cette allure, en fait, c'est un phénomène...
Ou pas,
impossible.
Ça marche pas.
Ils sont recouverts de mousse, donc on n'arrive pas, ça cache complètement l'arbre qui est en dessous. Et c'est un phénomène unique qu'on trouve en France. Alors, à votre avis, pourquoi ces arbres sont torturés comme ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Le vent?
Raté.
Il y a des volcans, des trucs comme ça. C'est
non. Faux.
Dans le passé, on avait des ancêtres qui ont fait des bonsaïs et ils ont grandi.
Il y a une histoire de passé. Où
c'est Tolkien qui les a plantés.
Ils ont grandi d'une manière complètement... ils ont été contraints, en fait, pour créer des haies. À l'époque, donc là, il y a déjà plusieurs siècles, et on les a tressés, dès que les branches poussaient, on les tressait vers le bas pour que ça constitue des enclos, que ça limite les prés et des parcelles agricoles. Donc après, la forêt a repris ses droits, mais il y a toujours ces arbres qui ont cette allure complètement mystérieuse dans tout le massif au pied du mont Beuvray. Et quand on se balade dans cette forêt, on peut en même temps tomber sur des fouilles à ciel ouvert, car il y a 3000 ans, à cet endroit vivaient les Éduins. C'était des Gaulois qui étaient très potes avec les Romains, et ils avaient créé leur capitale Bibracte, donc au pied du mont Beuvray. Et on voit quand on marche, on voit ces fouilles, donc on comprend toute la romanisation de l'époque, et on voit les vestiges des grands domaines, on voit les restes d'oppidum, et il y a même des expos souvent dans la forêt. Et les Gaulois connaissaient cette pratique des hêtres tressés qui était déjà connue. Donc pour l'anecdote quand même, Mitterrand voulait se faire enterrer au sommet du mont Beuvray, mais une association s'y est opposée, donc il est à Jarnac.
C'est vrai qu'il y a aussi cette idée de la forêt comme refuge, Sylvain Bazin, la forêt où on peut se planquer, la forêt où les résistants se planquaient, la forêt où les sorcières se cachaient également.
Oui, c'était un lieu de sabbat possible. Hein. Et puis alors c'est vrai... En plus là, quand elle revêt ce caractère fantasmagorique, hein, comme cette forêt du Morvan, ou moi je pense aussi à la forêt de Verzy, hein, à côté de Reims, hein, avec ces êtres tortueux là, les fameux faux qui eux sont issus d'une mutation génétique, mais voilà, qui produisent le même effet. Et c'est vrai que voilà, ça peut être tout à fait un lieu de refuge. Hein. Bah c'est déjà le cas avec le Robin des Bois. Hein, voilà. Effectivement, hein, la forêt d'Othe, par exemple, hein, qui est un grand lieu de résistance. Bon, les forêts du Vercors, même si c'est vrai qu'il y avait aussi toute l'architecture minérale qui permettait de se planquer et d'organiser la résistance. Mais c'est vrai que ce sont des lieux qui typiquement ont engendré ces lieux de refuge, de résistance, et dans les siècles passés, peut-être aussi des lieux de sorcellerie, de sabbat.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Christopher Knight. Il a vécu 27 ans tout seul dans une forêt du Maine, 27 ans sans parler à personne. Un jour de 1986, il arrête sa voiture au bord de la route. Il n'a plus d'essence, il n'a plus un dollar en poche. Il sort de la voiture, il entre dans la forêt et disparaît pendant 27 ans. Et alors avec une prudence de Sioux, hein, dans la forêt, il laisse aucune trace, il y a pas une brindille cassée, il la ramasse toute, il y a pas un brin d'herbe aplati, il leur met droit une fois qu'il est passé. Pour se déplacer, il saute plutôt de rocher en branche. Et l'hiver, évidemment, il fait pas de feu, et les forêts du Maine, l'hiver, je peux vous dire que ça pince un peu. Alors pour survivre, et bon, il trouve ce qu'il peut, puis il va surtout piquer dans les résidences secondaires estivales, et c'est à ce propos, enfin c'est au moment d'un cambriolage qu'il s'est fait pincer par la police. Donc 27 ans plus tard, il a fait 7 mois de prison, mais le plus dingue, c'est que quand il est sorti de prison, il a jamais expliqué son geste. Jamais. Il nous a dit pourquoi il était resté 27 ans en forêt. Il a juste dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de vivre en société ? Vous connaissiez cette histoire?
Oui, j'en ai entendu parler. J'ai lu des articles, c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors après, c'est peut-être pas tellement étonnant qu'il n'explique pas son geste. Il devait quand même pas être très loquace, ce garçon.
Hein,
dès l'origine.
Sans parler à
il
personne.
Il avait 19 ans quand il s'est enfermé.
C'est une forme de fuite sociale sans doute. Hein, mais c'est vrai que ouais, la forêt s'y prête bien parce qu'il y a quand même des ressources naturelles. Hein, donc c'est un milieu où on peut survivre. Hein, typiquement le développement actuel du bushcraft, tout ça, c'est
la forêt.
Ouais, le bushcraft, c'est pas du survivalisme parce que ça n'a pas ce côté un peu guerrier mais c'est voilà l'art de se débrouiller avec les moyens naturels en forêt et de camper, de vivre même en forêt en comptant sur les ressources naturelles. Alors lui, il l'a poussé à bout.
Et pourquoi pas ressources naturelles, champignons, Grégory Cohen, puisque vous avez cette recette de champignons à nous proposer. On vous écoute, Grégory. Avec les champignons, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, avec les champignons, quand on va dans les sous-bois, évidemment, on va trouver des champignons. On va les trouver généralement dans des arbres qui sont plutôt par terre, à côté de la mousse. On va essayer de retrouver des petits endroits. Et si on a la chance d'avoir hérité d'un cahier à champignons, on va savoir exactement où aller les chercher. Si on n'a pas cette chance, on va se fâcher avec tous ses amis en leur demandant de nous donner des tuyaux. Ils nous les donneront pas. Alors, quand je reviens des sous-bois, je peux faire plein de choses avec mes champignons. Je peux faire des omelettes, je peux faire des salades, je peux faire bref ce que je veux. Là, moi, j'ai décidé de vous amener vers une aumônière, comme une petite raviole en forme de bourse, et dedans on va faire une duxelle de champignons. Alors pour réaliser la pâte à raviole, une recette super simple, tu vas voir Maya, il faut 170 grammes de farine et 6 jaunes d'œufs, et c'est tout. Farine et œufs, jaunes d'œufs. On va prendre des œufs de gros calibre, il faudra un petit peu d'huile d'olive, une pincée de sel. On va mélanger le tout dans un mixeur avec lame, ça va faire une espèce de poudre. Ensuite, on va la compacter, ça va faire une pâte. Ensuite, on va l'étaler et on aura notre pâte à ravioles. C'est simplissime, c'est pas cher. Et du coup, ça peut nous dépanner quand on n'a rien non plus dans son frigidaire à part de la farine et des œufs. On fait des disques d'environ 16 cm de diamètre. Et pour la duxelle de champignons, on prend 750 grammes de champignons. Alors selon la météo, selon notre chance et selon ce qu'il y a dans les étals, des cèpes, des girolles, des morilles, des champignons de Paris, peu importe. Si on part sur des champignons de Paris, là où on est sûr d'en trouver à peu près tout le temps, on va prendre des champignons de Paris, 750 grammes, 2 gousses d'ail, une échalote, 4 branches de persil plat. On va nettoyer et queuter nos champignons. On va les découper en 4. On va conserver les queues à part. On pourra après faire une sauce. On épluche, on dégerme l'ail, on épluche l'échalote. On hache très finement l'ail, l'échalote ainsi que le persil plat. Et dans une poêle très chaude, c'est important pour pas que les champignons rendent leur eau. On veut juste les colorer.
D'ailleurs, on les lave pas vraiment à l'eau, hein. On les frotte pour.
On les frotte généralement, ou alors les champignons de Paris, si on les cuisine tout de suite, on peut aller les mettre dans une petite bassine d'eau, on les retire tout de suite, on les sèche et on les cuisine. Donc la poêle, elle doit être très chaude pour que ça dégorge pas trop. On fait colorer nos champignons, on ajoute en fin de cuisson la persillade, on retire du feu, on émince les champignons persillés, et puis on place une belle cuillère de ce mélange au centre de chaque disque de pâte. On va pouvoir réaliser environ une douzaine d'aumônières, restera un peu de préparation de champignons. On va refermer en rabattant les côtés pour former cette petite bourse, cette aumônière. On va pincer avec les doigts pour souder, puis on va les cuire dans une eau frémissante, 2 minutes. C'est tout. Ensuite, on fait tomber le reste de champignons dessus, un trait d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre, et puis c'est fait. On peut réaliser après avec les queues une sauce en rajoutant un peu de crème, mais Ça, cette recette est simple. Elle prend à peu près 3 heures à réaliser. Je vous préviens quand même, Thomas, parce que le temps d'aller en forêt, trouver les champignons et après revenir
et
pour
et
faire
surtout
cette recette.
D'aller voir la pharmacie pour être sûr que ce sont des bons champignons comestibles.
Non, en réalité, elle prend à peine 15 minutes à réaliser quand on a tous les ingrédients.
Elle est en tout cas très automnale.
Elle est dans l'air du temps.
Et rapidement, vous vouliez nous parler d'un resto aussi éphémère. Très rapidement.
Très, très rapidement. Du 20 novembre au 11 décembre, j'ouvre un resto éphémère à la bibliothèque Lagrange Fleury à Paris, sur le thème de la temporalité, et je vous y attends avec plaisir pour me rejoindre.
Ce sera après la balade en forêt, la dernière que vous allez nous proposer, Sylvain Bazin.
Itinéraire. Alors là, je pense que c'est encore le moment, la fenêtre de tir est courte, mais si vous aimez la montagne, il faut aller voir les Mélèzes hein, actuellement. Alors, typiquement dans le Queyra, hein, autour du Queyra, on a vraiment ces couleurs flamboyantes, hein, puisque le Mélèze, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles, et juste avant de les perdre, ils se colorent d'une façon vraiment extraordinaire. Alors, en plus, avec la puissance de la montagne, il faut vraiment y aller maintenant. Hein, dans le Queyra ou chez nos voisins de la vallée d'Aoste, il y a vraiment des très très beaux, très belles randos à faire en automne et sous les Mélèzes.
Sur franceinter.fr, Florent nous a laissé ce message.
La forêt, pour moi, c'est un lieu de repli à l'écart du monde. C'est un endroit où je me ressource également. Et puis, c'est devenu depuis peu un terrain de jeu. Un lieu où je vais découvrir un monde qui est pour le plus commun des mortels, encore inconnu. Les arbres, les interactions entre les animaux et les plantes, et puis la vie du sol. Comme le dit Marc-André Sellos, dans la forêt, même les humains ne sont jamais seuls.
C'est vrai qu'il y a un rapport très littéraire aussi, qu'on peut avoir très poétique avec la forêt. Alors vous avez évidemment cité tout à l'heure le Roi des Aulnes, mais il n'y a pas que lui quand on pense au nombre d'auteurs qui ont pu écrire sur la forêt. Alors Jack London, oui. L'Appel de la forêt, vous avez aussi le Grand Maulne hein, qui donne une vision très, très poétique de la forêt de Troncée notamment. Je ne sais pas, Guimette, quel serait votre bouquin de forêt?
Mais je crois qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, moi, mes livres de forêt, ce sont toujours des contes. Je crois que c'est ça qui m'a fait aimer, à la fois aimer, craindre, enfin, voir en la forêt un territoire à la fois séduisant et fascinant. Et, enfin, oui, les contes de fées, évidemment. Et puis après, oui, Tolkien, où là, carrément, les arbres sont vivants. Les arbres sont une population, les arbres nous surveillent, les arbres en fait sont plus forts que nous. Donc toute et cette littérature de contes et cette littérature gothique, pour moi c'est vrai que c'est la première chose que je pense quand vous me parlez de forêt littéraire.
Et puis on peut aussi citer L'Arbre Monde de Richard Powers, qui est l'un des derniers prix Pulitzer, très beau livre.
Et les Richard prix... Powers est un génie.
En tout cas ce bouquin, je le recommande évidemment. Les prix littéraires, c'est justement l'objet de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Parce qu'après les balades en forêt, vous nous emmenez Thibaut dans la jungle des prix littéraires avec cette question, est-ce que ça vaut le coup de lire le prix Goncourt?
Oui, alors rassurez-vous, je ne me suis pas transformé en critique littéraire tout à coup. Hein. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas encore lu le livre de Mohamed Bougarsar, La plus secrète mémoire des hommes. Mon problème là, il est tout simplement de savoir si ce livre, puisqu'il a eu le prix, eh bien, est-ce que ce livre est meilleur que les autres. Est-ce que ça va valoir le coup d'y passer quelques heures à le lire? Quand on gagne une médaille aux Jeux Olympiques, hein, c'est qu'on a été le plus fort, le plus rapide ou le meilleur, c'est assez simple. Mais est-ce que c'est pareil quand on gagne un prix Goncourt ou une Palme d'Or?
En 1933, l'Académie Goncourt couronnait André Malraux. L'Académie Goncourt, une véritable institution qui, depuis 72 ans, révèle les meilleurs écrivains français. Et cependant, combien d'auteurs aujourd'hui célèbres a-t-elle ignoré? De Mauriac à Monterland, de Céline à Green, de Barrès à Aragon, que d'oubli grave. Combien de batailles et de querelles le prix Goncourt a-t-il soulevé? Mais n'était-ce pas dans l'intérêt de la littérature?
Voilà, donc la question se posait déjà il y a 50 ans, c'est rassurant, dans cette archive de l'INA. Le prix Goncourt récompense assurément de bons écrivains, mais il se trompe aussi parfois, ou du moins ses choix paraissent donc discutables, polémiques ou même scandaleux.
Donc, à quoi sert ce prix et tous les autres si c'est comme ça, si on le prend comme ça?
Mais voilà, c'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème parce que ces livres qu'on récompense ne sont pas des objets comme les autres. Ce sont des créations littéraires qui ressemblent donc plus à des objets artistiques qu'à des objets techniques ou technologiques. On peut comparer deux voitures ou deux ordinateurs sur des caractéristiques objectivement mesurables. Mais comment comparer les qualités esthétiques de deux livres? Comment dire, au fond, qu'un livre est mieux écrit qu'un autre, qu'il est plus important qu'un autre, qu'il a plus de valeur qu'un autre? En rendant leur verdict, les jurés du prix Goncourt émettent ce que le philosophe Kant appelle un jugement esthétique. Et ce jugement esthétique, il y a un statut un peu particulier, tellement particulier que Kant y consacre un très gros bouquin, la troisième de ses fameuses critiques, la critique de la faculté de juger, après donc sa critique de la raison pure et sa critique de la raison pratique à vos souhaits. Pour Kant, le jugement esthétique exprime le goût. Et il est nécessairement subjectif puisqu'il naît de la manière dont une personne est touchée par un objet ou une représentation. Apparemment donc, la valeur d'un livre récompensé par un prix est donc toujours relative parce qu'elle dépend de la subjectivité des jurés. Mais en même temps, ça n'est pas si simple. C'est pour ça que le bouquin est gros. Un jugement esthétique, c'est un jugement subjectif mais qui aussi, dans le même temps, prétend à une certaine objectivité ou à une certaine universalité. Dire que tel livre mérite tel prix parce qu'il est le meilleur, c'est supposer, comme dirait Kant, que tout le monde devrait tomber d'accord sur les qualités de ce livre. Avoir du goût, c'est donc affirmer une sensibilité particulière, mais en supposant qu'elle est valable pour tout le monde ou que tout le monde en reconnaîtra la pertinence. Et nous, c'est ce que nous faisons quand nous sommes saisis par la beauté d'un paysage ou la beauté d'une musique ou la beauté de notre dernier amoureux ou dernière amoureuse et que nous voulons à tout prix la partager avec les autres en étant sincèrement convaincus qu'ils vont aimer eux aussi. Le paradoxe du prix Goncourt, c'est donc qu'il exprime un bon goût littéraire, à la fois complètement lié à des jurés particuliers et à une année particulière, et en même temps qui prétend avoir une valeur pour nous tous. Il n'est pas la preuve qu'un livre est meilleur qu'un autre, mais il est une invitation à en discuter de la valeur. Et à travers justement toutes ces discussions qu'on peut avoir à son propos, eh bien il va y avoir du lien, il va nous permettre d'affiner notre goût et y contribuer finalement à créer une culture commune.
Eh bien, Thibaut de Saint-Maurice, je ne sais pas si les jurés ont imaginé Kant, ont pensé à Kant quand ils ont délibéré, mais il faudra peut-être leur refourguer le gros bouquin dont vous parlez. Et puis, vous aviez aussi une petite annonce à nous faire partager.
Oui, Thomas, juste pour annoncer que la semaine prochaine, du 12 au 14 novembre, auront lieu les premières rencontres philosophiques Michel Serres à Agen, ville natale de Michel Serres, en partenariat avec nos amis de Philosophie Magazine. Donc, c'est des rencontres, des débats, des ateliers autour d'une belle affirmation. Cette année, le savoir rend libre.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. Votre chronique, comme celle de Sandrine, comme la recette de Grégory et comme la poésie de Guimette, sont à retrouver sur le site de France Inter. Musique, et puis juste après, Maya Mazorette nous emmène grimper dans les arbres.
1, 2, 3, 4. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo inverno, passo verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume, meu amor não tem razão, meu amor sem artifício. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passa o inverno, passa o verão, mas você não vê.
La violoncelliste donne la nena et ce titre Vejo Passar. Il est 10h54.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obsédé par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et avant la chronique sexo de Maya, cette petite rectification à apporter parce que le standard explose, la boîte mail explose, le proverbe exact, Sandrine, n'est pas le charme de l'orme, c'est d'être à poil, mais le charme d'Adam, c'est d'être à poil parce que le charme a des dents et le être des poils sur le bord du limbe. Je suis botaniste et sûr de moi et nous avons reçu énormément de messages dans ce sens-là. Donc voilà, la rectification a été apportée. Maya Mazorette, parler des arbres, ça vous a donné envie de revenir à l'origine de notre sexualité.
Absolument. Absolument. Qu'est-ce que la nature humaine? Ça fait des millénaires que les amis de Thibaut de Saint-Maurice s'écharpent sur la question. Alors, soyons fous, c'est vendredi, faisons grimper les enjeux. Qu'est-ce que la nature humaine? Au lit. Qui suis-je? Où vais-je? Où couchais-je? Et avec quel amant? Si on avait la réponse, on aurait résolu une question existentielle fondamentale. Il y a un essai qui vient de paraître et qui tente d'élucider notre nature sexuelle. Ça s'appelle « Au commencement était le sexe » aux éditions Alizio. Le bouquin est écrit par deux psys, Christopher Ryan et Cassilda Jetta. Il s'agit de nous faire découvrir notre sexualité d'aujourd'hui via nos origines préhistoriques. Alors cette idée que notre présent soit conditionné par le passé, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, une branche de la pensée parfois contestée, je le dis tout de suite, mais ce bouquin-ci, je vous en parle quand même parce qu'on y lit des phrases comme « Les testicules sont des pommes séchées venues du passé ». Donc là, j'ai juste pas pu résister du tout en fait.
Alors en effet, il y a beaucoup de questions hein, des particularités du pénis masculin.
Oui, alors c'est un exemple parmi d'autres, mais les auteurs comparent notre pénis à nous, enfin notre pénis à vous les hommes, à celui des autres grands singes, et comparativement aux gorilles et autres chimpanzés, le pénis des hommes est beaucoup plus grand, beaucoup plus gonflé, il dispose d'une plus grande puissance de feu spermatique, et par-dessus tout ça, le rapport sexuel dure beaucoup plus longtemps. Là, les auteurs se demandent, mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi c'est si important chez les humains d'en avoir une plus grosse et plus performante que celle des autres? Et ils donnent la réponse, c'est parce que dans notre espèce, la compétition sexuelle entre les mâles est extrêmement intense. Et on apprend par exemple qu'en décortiquant la chimie du sperme, on constate qu'il est fait de manière à se protéger du sperme d'autres hommes qui seraient déjà présents dans le vagin de nos partenaires ou qui y seraient déposés après nous. Et la chimie, cette fois du vagin, confirme que les spermatozoïdes ont bien besoin de se battre pour survivre, parce qu'apparemment, les femmes préhistoriques essayaient de nombreux mâles en simultané et laissaient leur vagin faire le tri entre les différents spermes présents à l'intérieur. À travers cet exemple et plein d'autres, comme la taille des testicules, les auteurs du livre déduisent que chez nos ancêtres, on s'en donnait à cœur joie avec plein de copains des bois. Et ils rappellent que la monogamie est une invention relativement récente, une invention qu'on pourrait décrire comme contre-nature.
Et tout ça nous mène à la situation actuelle, Maya.
Infidélité, divorce, couple malheureux, c'est facile de lire l'actualité des couples à la lumière d'une monogamie en crise, sauf qu'après avoir lu le bouquin, on en déduit qu'elle a toujours été en crise. D'ailleurs, si la monogamie était naturelle, on n'aurait pas besoin de loi pour l'encadrer, on n'aurait pas besoin de l'inculquer à travers des contes de fées, on n'aurait pas besoin d'inventer toutes les formes de répression sexuelle qu'on connaît et qui existent encore aujourd'hui. Les auteurs n'appellent pas nécessairement à la fin de la monogamie, mais à des arrangements comme regarder ailleurs quand notre mari ou notre épouse va batifoler avec le garde forestier. Et outre la paix des familles, les auteurs utilisent un argument redoutablement actuel, celui de la survie de notre espèce. Si la qualité du sperme décroît, et on sait qu'elle décroît depuis un siècle, ce serait parce que la monogamie empêche la compétition des spermes. Donc nous, les femmes, on se reproduit avec des mâles de moins bonne qualité, désolé pour ceux qui nous écoutent. Et à l'arrivée, on dégrade le potentiel génétique humain. Alors là, vous le savez, en ce moment, c'est la COP26. Pour sauver la planète, pour sauver la nature, ce week-end, prenez des amants.
Voilà. C'est dit. Sûrement le geste le plus biocompatible
qui
soit.
C'est la science qui le dit.
Merci Maya Mazorette. Votre chronique à retrouver sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Merci à tous d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr et puis sur la plupart des plateformes de podcast. Ali Rebéi, le maître des lieux, sera de retour lundi prochain avec une émission consacrée au lait. Et vous pouvez déjà poser toutes vos questions sur l'appli de France Inter.